Vous écoutez RTL.
RTL dimanche soir, le MacPol
avec Philippe Robuchon.
Le MacPol, le magazine politique de la rédaction avec Olivier Mazerolle. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
La France va-t-elle demain manquer d'élus locaux? Oui, à en croire un sondage plutôt inquiétant mené par une délégation du Sénat. 45% des élus, qu'ils soient maires, représentants d'un département ou d'une région, envisagent de jeter l'éponge à l'issue de leur mandat actuel. Trop prenant, trop d'ennuis, incompatible avec vie professionnelle et personnelle. Voilà qui rend urgente la réforme du statut des élus. Illustration dans quelques instants avec un reportage dans la Sarthe et en Indre-et-Loire. Les jeunes avec Macron pourraient-ils devenir un État dans l'État? Autrement dit, aussi embarrassant pour La République En Marche que ne le fut pour le PS, le mouvement des jeunes socialistes. Officiellement, pas question de s'opposer aux aînés. Julien Fautra pour RTL a assisté hier en coulisses à la convention des JAM près de Paris. D'ici 19h également, Dominique de Villepin, présidentielle russe, isolement diplomatique de Vladimir Poutine, mais surtout politique française. On réécoutera et on débriefera les propos de l'ancien Premier ministre qui était aujourd'hui au grand jury. Le MacPol, c'est parti jusqu'à 19h.
Le MacPol.
La semaine d'Olivier Mazerolle sur RTL.
Olivier, cela ne fait aucun doute, Vladimir Poutine va être élu pour un quatrième mandat. Ses méthodes, sa brutalité ne plaisent pas à tout le monde, que ce soit en Syrie ou ailleurs. Pourtant, un peu comme l'a dit Dominique de Villepin tout à l'heure au grand jury, vous estimez que, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, il restera incontournable, Poutine, dans les mois et les années qui viennent, pour régler la plupart des grandes questions internationales.
On a toutes les raisons de ne pas aduler Vladimir Poutine. Son régime est souvent brutal et toujours autoritaire. La démocratie ne fonctionne pas, les élections ne sont pas très régulières, la liberté d'expression est muselée, les médias sont à sa botte, il pratique le rapport de force, il a annexé la Crimée, territoire ukrainien. Seulement, il est le président de la Russie. Un pays qui était proche de l'effondrement lorsque Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, un pays qu'il a relevé à la force du poignet. Il avait cherché à s'entendre à l'époque avec les Européens et les Américains, mais les Occidentaux lui ont refusé leur aide. Ils l'ont même humilié en ne tenant aucun compte des intérêts russes. Poutine a empêché la dislocation de la Russie. Il a donné aux Russes ce qu'ils espéraient, la stabilité et une puissance militaire qui leur garantit la sécurité face à l'Occident qui demeure pour eux un adversaire potentiel. Les sanctions contre Poutine les renforcent d'ailleurs dans cette opinion. Après la chute de l'URSS, les Occidentaux avaient cru que la Russie était devenue un pays de second ordre, qu'ils allaient pouvoir investir et manœuvrer à leur guise. Ils se sont lourdement trompés sur la scène internationale, en Ukraine, en Syrie. Poutine démontre que rien ne peut se faire sans lui.
Mais Olivier, il y a quand même des tentatives d'assassinat à Londres, a priori, même si on n'a pas de preuves, des gens qui meurent en Syrie parce qu'ils soutiennent Assad, et on va parler avec lui.
Vous savez, on peut toujours protester, mais pas beaucoup plus. D'ailleurs, si on regarde la réaction des Britanniques, on voit que les mesures de rétorsion sont assez légères, en fait. Et en Syrie, il est trop tard pour sauver quiconque avec une intervention militaire. Assad va rester. Poutine aura gagné cette manche. Mais il n'a rien réglé politiquement. L'instabilité règne. La deuxième manche va être très dangereuse au Proche-Orient. Et Dominique de Villepin, qu'on a entendu cet après-midi au grand jury, a raison. Maintenant que la première manche est perdue, il faut préparer les secondes. Convaincre Poutine qu'il est de son intérêt comme du nôtre de parvenir à une solution politique qui préserve les intérêts légitimes des différents protagonistes. Ça peut paraître cynique, pas très moral, mais ce serait plus efficace, y compris pour sauver des vies humaines dans les mois qui viennent.
Olivier Mazerolle. C'est une enquête dont on a peu parlé, mais dont les conclusions sont pour le moins inquiétantes pour l'avenir de la démocratie locale. À l'issue de la Conférence nationale des territoires en décembre dernier, la délégation aux collectivités territoriales du Sénat avait interrogé des milliers d'élus, maires, conseillers municipaux, représentants d'un département ou d'une région. Elle a reçu 17 000 réponses et la principale conclusion à laquelle on arrive, c'est que près d'un élu sur deux, 45%, envisage de ne pas se représenter à l'issue de son mandat actuel. Dans l'ordre des explications, des citoyens trop exigeants, des risques juridiques beaucoup trop lourds et l'incompatibilité avec la vie personnelle ou professionnelle. Une enquête qui va évidemment alimenter la proposition de loi sur le futur statut de l'élu que vont déposer deux députés dans les prochaines semaines. Illustration de ce gros coup de fatigue de nos élus locaux, il ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, avec ce reportage de Christian Panvert dans la Sarthe et en Indre-et-Loire.
Jacques Frénéard se souvient avec émotion du jour où il a été élu maire de Courguin, un village de 600 habitants au nord de la Sarthe. 14 voix sur 15. Il aimait passionnément cette fonction qu'il a exercée durant 8 ans. Mais lors de son second mandat, en 2016, il jette l'éponge. Principale raison de cette démission au coup de colère, le plan local d'urbanisation, le PLU, qu'il avait soigneusement façonné avec son équipe, retoqué en quelques minutes par le tribunal administratif.
C'était une déception terrible. On a travaillé pendant un mandat entier sur ce projet, qui était très intéressant, accepté par le préfet. Par contre, donc, j'ai un administré qui a attaqué le PLU. Pour un vice de forme, on a perdu. Donc la commune a perdu 30 000 euros, 28 réunions. C'est vraiment quelque chose de déprimant quand vous êtes maire de votre commune et que vous avez une équipe qui vous suit, c'est vraiment désolant.
L'ancien technicien agricole de 69 ans dénonce les exigences de plus en plus fortes des administrés. Il doit être, dit-il, tour à tour garde champêtre, gendarme ou assistante sociale.
Il faut être partout, parce qu'on n'a pas de service, nous, hein, à part le maire et la secrétaire de mairie, et puis les conseillers municipaux, dont les adjoints qui donnent un bon coup de main, qu'on revient quand même toujours vers le maire. Quand vous avez le téléphone portable dans la poche, quand il sonne, vous dites qu'est-ce qui va encore me tomber dessus, quoi.
Dans le département voisin, à Fondettes, Cédric de Oliveira a revêtu l'écharpe tricolore à franges d'or à seulement 27 ans. 3 ans plus tard, il préside l'association des maires d'Indre-et-Loire. Sur les 272, 50 envisagent d'arrêter à la fin de leur mandat. Selon lui, pour stopper l'hémorragie, il faut absolument améliorer leur statut, à commencer par le pénal.
On ne peut pas assommer le maire pénalement sur tout et n'importe quoi. Si vous avez le malheur de voir un enfant dans l'un des parcs publics tomber de la balançoire, se casser la jambe, le maire peut être en effet cité au pénal. C'est inimaginable, on préfère même pas y penser.
Il touche 1300 euros pour une commune de 10 000 habitants. Trop peu pour le maire de Fondettes, adhérent LR. Le régime indemnitaire n'est plus adapté.
Pour un maire, c'est un travail à 80%. La plupart des maires ne peuvent pas vivre du tout avec leurs indemnités. On ne parle même pas du maire du petit village de 300 habitants qui remplacerait même parfois la cantinière quand elle est absente. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux.
Autre priorité, la protection sociale.
L'ancien maire de ma commune me disait « J'ai fait un mandat, j'aurai 300 euros de retraite par mois. » C'est vraiment ridicule. Ce qui veut dire qu'à côté, eh bien, on est obligé de continuer à avoir une vie professionnelle pour assurer aussi une retraite, on va dire, correcte.
Malgré toutes ces doléances, Cédric de Oliveira le répète, la fonction de maire est épanouissante, passionnante, et si c'était à refaire, il se représenterait.
Un reportage de Christian Panvert en Touraine pour RTL. Il est 18h39, on marque une première pause dans ce MacPol. Dans un instant, Dominique de Villepin, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI.
Le MacPol,
Philippe Robuchon.
On ne l'avait pas entendu depuis de longs mois. Dominique de Villepin était tout à l'heure l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. L'ancien ministre des Affaires étrangères a évidemment abordé les questions internationales, élections présidentielles en Russie, Syrie, isolement diplomatique de Vladimir Poutine. Mais l'ancien premier ministre a également donné son sentiment sur la politique que mène Emmanuel Macron. Politique au pas de charge, il faut bien le dire, avec des réformes qui s'enchaînent à un rythme soutenu. Et là, eh bien, à sa façon, Dominique de Villepin a lancé un avertissement au président et à son gouvernement. Attention, a-t-il dit, à ne pas aller trop vite.
Ma conviction, c'est que le gouvernement doit choisir ses combats. Dans un pays qui a souvent eu le sentiment du blocage, souvent eu le sentiment d'avoir du mal à se transformer.
Vous l'avez expérimenté vous-même sur le CPE ?
Absolument.
En 2005 ?
Souvent du mal à se transformer et à changer, il a engagé une transformation des esprits. Et je crois que c'est l'essentiel. À partir de là, il y a une méthode qui consiste à mettre tous les dossiers de réforme sur la table et en quelque sorte provoquer une sorte d'effet de sidération en se disant passe ce qui doit passer et s'il y a des difficultés, eh bien on négociera avec les syndicats pour faire en sorte que les choses se déroulent au mieux. Mon inquiétude aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention à ce que les oppositions ne se cristallisent pas. Et c'est bien ce qui se joue aujourd'hui. Nous avons un président qui a, de ce point de vue-là, une intuition très forte sur la façon de gouverner notre pays. Le premier, c'est un président qui a voulu marquer le retour d'une certaine autorité. Dans une tradition monarchique et républicaine, c'est Jupiter. Puis en même temps, il est le président de la modernité, c'est le président start-upper. Et ce président-là, au-delà de l'homme fort, il veut montrer la capacité à remettre en marche, à redonner confiance dans le pays. Mais je pense qu'il y a une troisième dimension, une troisième image. Et aujourd'hui, il a rendez-vous avec cette indispensable métamorphose. On ne peut pas se contenter de l'autorité et de la modernité. Mm-hmm. Et c'est ce qui se joue à la SNCF, c'est ce qui se joue surtout avec les retraités.
C'est quoi la troisième
dimension ? C'est l'humanité. Il doit montrer sa capacité d'empathie, de compréhension, et c'est là où il doit choisir ses combats.
Et là, ce n'est pas le cas aujourd'hui ?
Je pense que c'est le défi qu'il a. Faire des réformes, dormir 4 heures par nuit, travailler avec une toute petite équipe, c'est possible pendant quelques mois, et à un moment, ça devient plus difficile. Et le risque, c'est qu'on devienne isolé, solitaire, arrogant. Je crois que pour le président de la République, son intérêt aujourd'hui, c'est d'élargir sa palette. Je dis qu'il faut enrichir la majorité de plusieurs pôles d'expression, avec des sensibilités, avec des nuances, qui permettent au président de la République et au Premier ministre d'avoir un clavier. Aujourd'hui, il y a un parti qui est un peu trop, un parti Godillot. Ce parti Godillot, il dit toujours la même chose. Il suit le président, il suit le Premier ministre. C'est une chance pour un Premier ministre et pour un président de la République d'avoir des majorités plurielles.
Mais il n'y a pas
que nous sommes dans une époque où il faut prendre en compte la diversité des sensibilités et des sentiments. On est dans un moment où il faut écouter. Si on fonce tête baissée, à un moment donné, on se prend le mur. Prenons les réformes qui sont aujourd'hui sur la table. Réforme de l'assurance chômage, réforme de la formation professionnelle, la réforme des retraites qui va venir bientôt. Ça, c'est des réformes fondamentales. Mm-hmm. Et la réforme de la formation professionnelle, elle engage l'avenir. Mm-hmm. Il y a des réformes qui sont moins importantes.
Mais quelles sont accessoires, par exemple, dans ce qui a été lancé ?
Je pense qu'il y a des réformes qu'il faut réussir sans état d'âme. La réforme de la SNCF, on n'a pas besoin de faire une réforme qui permette au Premier ministre ou au Président de la République de mettre un nouveau trophée à leur ceinture. Avoir une réforme sans gagnant ni perdant, ce serait pas mal. Mais la réforme des institutions, elle peut être réussie par consensus. Vous savez, la logique d'autorité, elle conduit à la logique de trophée. Où on brandit les réformes, regardez ce qu'on a fait. Je le redis, ne soyons pas absolutistes, ne soyons pas puristes. Moi, je dis ça d'autant plus que moi, je l'ai été. J'ai succombé à cette tentation. Et je crois qu'au bout du compte, l'important, c'est d'avancer ensemble.
RTL dimanche soir.
Le Mac Paul.
Benjamin Sportouche, RTL, Christophe Jacubizine, TF1, LCI, Alexis Brézel et Figaro. Messieurs, l'avis d'un ancien Premier ministre, c'est toujours intéressant. On retient aujourd'hui Dominique de Villepin, ses phrases sur la politique menée par Emmanuel Macron, qui manque d'empathie et d'humanité. Et ça, c'est important au moment où on doit régler des conflits sociaux difficiles.
Ah oui, on a le droit à une leçon de Villepin à Macron. Et c'était assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il explique qu'il a réussi d'incarner l'autorité. Il a réussi le rythme des réformes, mais effectivement, il nous dit que, notamment vis-à-vis des retraités, il nous dit attention, ne pas paraître comme arrogant. Il faut, quand on est président, être au-dessus de la mêlée. Il s'expose trop, il est trop en première ligne sur tous les sujets. Et il nous a-t-il dit, un président peut et doit lâcher sur des sujets qui sont essentiels pour qu'il se montre à la hauteur des Français.
Alexis.
Ouais, c'était vraiment intéressant parce que c'était, au fond, j'ai vécu ça, je suis tombé dans un angle de travers, et ben là, ça va pas. Et ça me paraît d'autant plus intéressant qu'il y a l'autre partie du message qui était finalement, en filigrane, on peut dire que c'est une offre de service. Quand il dit qu'il faut que Macron élargisse, que trouve davantage d'appui, on comprend bien que c'est du côté droit. Ouais. Donc on se dit finalement, ça pourrait être ça. Mais il accompagne cette analyse générale de ce que doit faire Macron, de cette critique assez vigoureuse et assez inédite, hein, parce que... et donc du coup, c'est quand même le meilleur moyen que Macron fasse pas appel à lui, parce que là, c'est très personnel, c'était vraiment sur l'homme Macron, et peut parfois céder à la tentation de l'hubris, c'était pas que de la politique.
Ouais, une tentation quasiment bonapartiste. Alors c'est intéressant de la part de celui dont on dit qu'il a fait preuve d'arrogance du temps où il était en charge des affaires, donc ça veut dire en effet qu'il a appris de l'expérience, et il se dit clairement, il manque d'empathie, et notamment sur la CSG, sur les retraités. Oui. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Qu'il fallait aller chercher dans la cagnotte fiscale. Alors, pour un homme de droite, ou en tous les cas, qui aujourd'hui peut certainement plus en même temps, mais qui a quand même été un homme de droite, c'est intéressant de l'entendre. Il dit il faut faire le désendettement, mais pas que, il faut aussi aller aider ces gens-là. Donc, de sa part, c'est une double leçon. À la fois, faites attention au style, mais aussi au fond, parce que vous risquez de mépriser toute une catégorie de population.
Alors, c'est amusant parce que ce coup de la cagnotte, il faut se souvenir d'où ça vient. Ouais. C'est Jacques Chirac, président, qui en 97 fait la leçon à son gouvernement de gauche, à Lionel Jospin et au ministre des Finances, il dit, je crois qu'on me parle d'une cagnotte fiscale qu'il faut rendre aux Français. Donc du coup,
pas pour rendre service,
mais
c'était
non.
un piège.
Mais Alexis,
c'était pour emmerder.
Je suis pas d'accord avec Alexis. Je pense qu'il y a pas d'offre de service chez Villepin parce que
il est bien. Je dis, on aurait pu le penser, puis quand on voit ce qu'il y a à côté,
mais
non.
En revanche, moi, j'ai pas réussi. Peut-être qu'Alexis va à la clé à comprendre pourquoi effectivement Villepin aujourd'hui attaquait Macron sur ce manque d'humanité et l'attaquait sur la cagnotte, parce que c'est le baiser qui tue la cagnotte.
Ouais,
parce qu'on sait combien c'est un sujet politique hypersensible, on sait combien les Français en 97 ont fait plier le gouvernement pour que la cagnotte soit redistribuée, comme on a raté à cette époque-là d'ailleurs le désendettement en partie du pays. Et donc pourquoi est-ce qu'il fait ça aujourd'hui? Je ne sais pas.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé un petit peu après, il dit chaque président avait une vertu. Et il disait la vertu de Chirac, donc ça il s'en souvient, c'était l'humanité. Et Chirac était attentif aux souffrances, aux difficultés des gens.
Pas trop, puisqu'il ne réformait pas.
Et du coup, il n'a rien pas fait grand-chose, parce que quand on est trop humain, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui râle, on ne fait pas la réforme, parce que il a dit Sarkozy c'était l'énergie. Il dit
Hollande
il a pas trop trouvé. Et dit que pour Macron c'est l'autorité, c'est très bien l'autorité. Et d'ailleurs à un moment il analyse, il dit la planète, on se rend compte que les peuples ont besoin d'autorité, et que ce soit en Russie, en Chine, partout. Mais il faut pas que ça, parce qu'il y a un moment où quand il y a trop d'autorité, les peuples se rebiffent. Et en filigrane, c'est quand même ce qu'il nous a dit. Il a dit là, les gens en ont marre.
Et en off, il nous dit il faut qu'il se coupe un bras pour continuer à courir, Macron. Et donc le bras, c'est peut-être effectivement céder aux retraités, aux EHPAD, voilà.
Alors, les retraités, les EHPAD, et puis moi je retiens aussi ce qu'il a dit à propos de la SNCF. En gros, il avertit Emmanuel Macron, il dit attention, faut pas de mantra, faut pas réformer pour réformer. Sous-entendu, on met pas un trophée sur sa cheminée, on a gagné cette réforme-là.
C'est-à-dire qu'à la fois, en gros, il faut rester au niveau des principes. Et chaque fois qu'on essayait d'entrer dans un sujet particulier, notamment la SNCF, il ne veut pas rentrer dans la boîte, et à la fois il dit que c'est nécessaire, et à la fois il dit qu'il ne faut pas accrocher un trophée. Dans un des bouts de phrase, on comprend qu'il faut aller jusqu'au bout, dans d'autres bouts de phrase, on comprend que si on abandonnait un peu, ça, c'était pas, le moment le plus clair.
Oui, mais il a dit quand même sur les ordonnances, il dit attention, il a quand même dit il y a une majorité Godillot. C'est intéressant de voir. Lui qui a utilisé les ordonnances en tout début de mandat, il en a fait deux ans, il a fait deux ans à Matignon. Bien là, il dit il faut quand même donner aussi, le Parlement c'est important, il faut aussi entendre une majorité qui est pléthorique. Donc toujours, il y a quand même cet avertissement de la crainte de l'autoritarisme, ce qui est quand même totalement à l'opposé de la modernité que veut incarner Emmanuel Macron.
Ça sera la chute, Benjamin. Merci. Benjamin Sporto, cher tel. Mais oui, allons-y. Christophe Jacubizine, TF1 LCI, Alexis Brézet, Le Figaro. Merci, messieurs. Olivier Mazerolle, c'était quand même assez croustillant d'entendre Dominique de Villepin dénoncer le bonapartisme.
C'est-à-dire que oui, c'est une très belle leçon. Voilà un bonapartiste qui a échoué, qui sait pourquoi il a échoué. Il dit c'est parce que je suis succombé à la tentation du pouvoir et de l'autoritarisme, et qui donne donc un conseil au bonapartiste en place, qui est Emmanuel Macron. Et il a raison, Dominique de Villepin, de souligner que Bonaparte, pour réussir, doit entraîner, doit donner envie, doit provoquer un enthousiasme. Et ça n'est pas le cas. Au contraire, même pour des raisons diverses, pratiquement toutes les couches de la société aujourd'hui ont envie, on trouve un point sur lequel elles ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron. Alors, ça ne fait pas un ensemble, sauf qu'à un moment donné, il peut se produire que l'un des mécontentements devienne emblématique pour tous les autres et provoque un ralliement. C'est à ça qu'il faut qu'il fasse attention.
Alors, il dit également à Emmanuel Macron, il faut qu'il élargisse sa base politique.
Oui, sa base politique, enfin sa base d'abord dans l'opinion, je crois, qui est moins de mécontents potentiels. Et puis, on peut parler aussi des syndicats. Vous voyez, par exemple, le conflit à SNCF. Eh bien, souvenez-vous, pendant la campagne électorale, Macron avait dit « Les syndicats défendent des intérêts particuliers et non pas l'intérêt général. » L'intérêt général, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle du président de la République. Et donc, il applique ça à la lettre. Qu'est-ce qu'il dit aux syndicats ? Écoutez, moi je vais fixer le cadre avec mon gouvernement, et ça vous n'y toucherez pas. Vous avez le droit d'apporter quelques suggestions, mais à l'intérieur de ce cadre. Et ça suscite énormément de blocages de la part des syndicats. Même la CFDT aujourd'hui est très mécontente, et donc il faut sans doute qu'ils trouvent un autre ton avec eux.
On verra d'ailleurs Laurent Berger, qui sera le jour de la grève jeudi, invité d'Elisabeth Martichoux à 7h45.
Laurent Berger qui disait récemment, quand on provoque un incendie, il ne faudra pas venir nous chercher pour l'éteindre.
Voilà. Olivier, savez-vous ce que sont les JAM ?
Les JAM. Alors, les JAM. Je peux vous dire que j'appartenais à un club d'athlétisme qui s'appelait les Jeunesses Athlétiques de Montrouge, mais je ne pense pas que ce soit ça.
Alors, il y a autre chose, les JAM dans les années 70-80, c'était un groupe punk britannique, c'est pas ça non plus. Aujourd'hui, les JAM, ce sont les jeunes avec Macron. Eh bien, les JAM ont tenu hier au pavillon Baltard à Nogent leur première convention en présence de plusieurs personnalités du gouvernement et de La République En Marche. Bonsoir Julien Fautra.
Bonsoir à tous.
Vous avez assisté à cette convention. l'immigration. Tout est fait pour que ce mouvement soit le porte-voix d'Emmanuel Macron.
Oui, les jeunes avec Macron, c'est un peu une armée de jeunes soldats destinés, comme son nom l'indique, à défendre le président de la République partout en France. Même jusque dans les bourgs, a-t-on entendu hier à la tribune. Pour le PS, par exemple, ce sont les MJS. Là, c'est tout pour un seul homme. Le ton est donné. Les JAM, ce mouvement de jeunesse qui se veut très différent des autres partis, un anti-modèle même du MJS, afin d'empêcher toute fronde contre l'exécutif. Les jeunes socialistes, au fil du temps, se sont transformés en force autonome, trop autonome. Le mouvement est devenu, quoi qu'il en soit, un casse-tête ingérable pour plus d'un premier secrétaire.
Alors, les jeunes macronistes, précisément, en ont-ils tiré une leçon ?
À l'évidence, oui, et cela en créant un conseil stratégique. Le nom veut à la fois tout et rien dire, il vient du privé, mais dans ses attributions, il existe un droit de veto. Et ils sont quatre hommes, aujourd'hui députés ou conseillers sous les ordres de la République. Tous les quatre ont ce droit de veto, c'est-à-dire que la moindre orientation prise par le mouvement, qui revendique, même si le chiffre est à prendre avec des pincettes, 25 000 membres, la moindre orientation, Philippe, peut être balayée si l'un de ces quatre-là s'y oppose. Pierre Person, député de Paris, a dans ses jeunes mains ce droit de veto. Moins de démocratie pour plus d'efficacité, il l'assume.
C'est la même chose à l'ONU, hein. Il y a en effet un pouvoir de veto. Le but, ce n'est pas de l'utiliser d'un point de vue opérationnel, c'est simplement concevoir que sur les grandes orientations, on veut aussi qu'il y ait une seule ligne. La seule ligne, c'est celle que Emmanuel Macron a promu, c'est son programme. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est porter des idées avant tout.
Pour que les jeunes macronistes ne s'émancipent pas ?
On peut dire cela, du moins pour qu'elles ne deviennent pas une force d'opposition. Le mouvement a élu cette semaine son nouveau délégué général. Il s'appelle Martin Baumert, 29 ans, central, Sciences Po. Il ne voit aucune raison à s'émanciper de la tutelle de ses pairs.
Ils sont là pour nous guider, nous orienter, mais comme dans plein d'entreprises, comme un conseil de surveillance que vous avez ailleurs. Donc ça va être nos vigies, nos conseillers, pour être sûr que le mouvement est dans la bonne direction.
Autre élément, les élections internes. À l'inverse du MJS qui se déchire, hein, aujourd'hui le mouvement est fracturé, aucun risque chez les jeunes macronistes, puisqu'il n'y avait, Philippe, qu'une seule liste. Le risque, bien entendu, que le mouvement devienne uniforme et au final ne soit en rien le reflet d'une génération. Ne pas créer de division, voilà le leitmotiv. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, ironise sur les difficultés du mouvement concurrent.
Moi, j'ai été membre du MJS, je peux vous dire que c'est très différent des JAM, parce qu'une liberté de ton comme on a là, et pas de la langue de bois, et pas de la doctrine, mais du faire, c'est donc très éloigné de ce qu'est le MJS.
Les JAM ont donc pour mission de ratisser le territoire, expliquer les réformes Macron. C'est aussi un outil de promotion, de découverte des futures têtes de proue de la Macronie. Voilà bien le seul point commun avec les aînés socialistes.
Merci Julien Fautra. Commentaire Olivier ?
Bah écoutez, c'est très bien d'avoir la jeunesse avec soi, à la condition que la jeunesse soit la jeunesse, c'est-à-dire qu'elle s'exprime.
Alors, il est 18h56, on va égrener l'agenda politique de la semaine à venir, Olivier. Demain, lundi 19 mars, Notre-Dame-des-Landes, la préfète de Loire-Atlantique, va présider un premier comité de pilotage. Elle va discuter de l'avenir des terres agricoles de la ZAD, mais sans les zadistes qui ont prévu, eux, de manifester devant la préfecture. Mardi, l'Assemblée nationale examinera le projet de loi de programmation militaire pour 2019-2025. Mercredi, Marlène Schiappa présentera son projet de loi contre les violences sexistes.
Oui, ça c'est très important, puisqu'il va y avoir les mesures contre le harcèlement. Et on va voir si elles sont applicables, surtout, ces mesures. Et puis, la majorité sexuelle qui va donc fixer l'âge de 15 ans, en dessous duquel toute agression sexuelle sera qualifiée viol.
Alors, jeudi 22, c'est évidemment le gros événement politico-social de la semaine. Journée test pour Emmanuel Macron, avec cette journée d'action dans la fonction publique, la SNCF, la RATP.
Et le lendemain, Air France.
Et le lendemain, Air France.
Air France, alors, Air France, c'est sur les conditions salariales, les fonctionnaires et SNCF, RATP, c'est sur le statut, sur le mode de fonctionnement. Ça va être très important pour le gouvernement de jauger la popularité de ce mouvement. Est-ce que véritablement il va mobiliser ? Et si oui, peut-être conviendra-t-il en effet qu'il trouve quelques accommodements avec les syndicats, peut-être commencer à concerter réellement et non pas à répéter en boucle toujours la même chose.
Dernier événement sur lequel on va s'intéresser, le Conseil européen jeudi-vendredi.
Jeudi-vendredi, et là c'est très important aussi parce que c'est l'avenir de la zone euro dont on va parler. Il n'est pas sûr qu'on découvre que Mme Merkel et Emmanuel Macron partagent exactement la même opinion.
Merci beaucoup Olivier Mazerolle. Il vous plaisent les nouveaux studios de RTL?
C'est très bien, c'est très confortable, un peu loin les uns des autres, donc on va rétablir un peu la promiscuité.
On va se rapprocher.
Mais franchement, c'est bien.
C'est sympa. Merci Olivier Mazerolle, c'est la fin de ce MacPol. Dans un instant, le flash de 19h avec Alexandre de Saint-Aignan, suivi des dessous de l'écran. Invité ce soir, Fanny Agostini, numéro de Thalassa sur les tempêtes demain soir. Et puis juste après, un débat. Twitter est-il devenu infréquentable? On a vu cette semaine que Karine Lemarchand a pris la décision de quitter le réseau social qu'elle qualifie de déversoir de haine.
RTL dimanche soir,
le MacPol.